Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce 37e épisode, j'ai échangé avec Benjamin Ducousseau, cofondateur et CEO de Wisby. Créé en 2011, la mission de Wisby est d'offrir une offre complète de services pour faciliter l'entrée dans la vie active de tous les jeunes. Wisby propose donc des services utiles aux jeunes pour trouver un emploi, un financement ou encore une assurance. Et tout ça en collaboration avec des entreprises et des industries. Aujourd'hui, Wisby, c'est plus de 6 millions d'utilisateurs sur leur plateforme, un passage de 20 à 120 collaborateurs sur les 4 dernières années, et plus de 85% de croissance annuelle moyenne depuis 2016. Récemment, ils ont lancé, en partenariat avec le gouvernement, la plateforme unjeuneunesolution.fr, une initiative pour accompagner, former et faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes sur tous les territoires. Dans cet épisode, de nombreux sujets sont abordés, notamment le parcours de Benjamin avant d'entreprendre et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, quels sont les services proposés sur Wisby, comment lance-t-on autant de services différents, unjeuneunesolution.fr, comment s'est déroulé ce partenariat avec le gouvernement et qu'est-ce qui a été le plus compliqué à exécuter durant cette aventure. Un grand merci à Benjamin pour cet échange. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous, ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Alors Wisby, la mission de Wisby, c'est d'offrir une offre complète de services pour faciliter l'entrée dans la vie active de tous les jeunes. Et du coup, on va voir ça dans ce podcast avec toi, Benjamin. Moi, je commence tous les épisodes sur le parcours des entrepreneurs et sur quel a été ton parcours avant d'entreprendre et qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris. Qu'est-ce qui t'a mené, entre guillemets, vers l'entrepreneuriat.
Mais écoute, d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment ravi de participer aujourd'hui au podcast. Moi, j'ai eu un parcours, je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur, sans l'être tout à fait. Mais déjà dans ma famille, voilà, j'ai un arrière-grand-père qui était restaurateur, entrepreneur. J'ai toujours beaucoup entendu parler de lui, qui allait servir voilà, le vin blanc aux clients, qui était vraiment, si on peut dire... un homme de la relation client, quoi. Il adorait être avec les clients, avec les gens, être dans la salle, partout. Ça m'a toujours marqué, ça, voilà, de ce qu'il était. Puis moi, j'ai eu un parcours scolaire où très très vite, en fait, en première et en terminale, j'ai choisi de faire mes études en correspondance et je suis allé travailler dans un restaurant, qui était un restaurant justement à Pau, parce que je suis du sud-ouest béarnais. Et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un super patron qui m'a donné pas mal de confiance et j'ai beaucoup appris de la restauration. Et à la suite de cette restauration, tu vois, pourquoi est-ce que je rencontre un peu mon parcours scolaire, mais parce que je pense qu'il a une importance dans ce que je suis devenu et dans le pourquoi est-ce que j'ai entrepris. À la suite de j'ai fait mon bac de première tranquillement en correspondance. Mon bac, c'était un peu plus dur, j'étais en ES SP Math. Puis je me suis viandé, si l'on peut dire, parce que c'était un peu compliqué. J'avais quoi, F7 en maths et je me suis raté les maths. Et puis je me suis retrouvé, j'avais quand même fait les dossiers d'entrée en BTS à l'époque. Et j'ai été accepté, en fait, au BTS, même si j'avais pas le bac. C'était un BTS à l'Institut de promotion commerciale à Pau. Je suis rentré là-dedans en alternance et je suis fait mon alternance chez Noroto, qui était un spécialiste distribution. Et je suis arrivé en fait au moment où il y avait les GPS, vous savez, les premiers TomTom qui est closé. C'est, je pense, là que j'ai pris goût en fait avec la techno direct. J'étais en alternance vendeur au rayon son GPS, donc je faisais à la fois le réglage des subs là chez les gens qui adorent la musique dans les voitures et puis aussi voilà, ces petits GPS, ces petites machines qui arrivaient. Et en fait, j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré voir des gens un peu perdus, ne pas trop savoir quels étaient les appareils à qui se confier. J'ai adoré la relation de confiance que, justement, j'ai réussi à créer avec ces clients, leur présentant toutes les offres qui étaient présentes sur le marché, en s'affranchissant un peu des devoirs de marge, mais plutôt en ayant un devoir de conseil extrêmement fort. J'ai beaucoup aimé ça. Et je crois que voilà, ce parcours en fait, un peu d'entrepreneur a pris naissance un peu là-dedans. C'est-à-dire un peu dans mon truc de restauration, un peu atypique, pas le parcours scolaire de comme tout le monde. Puis voilà, cette découverte avec la technologie. Puis j'ai tellement bien aimé ça qu'en fait, après, je me suis dit que comme j'avais repris mes études, j'avais envie de poursuivre dans cette voie. J'ai intégré l'école de management de Grenoble à la suite de ça par un concours qui est le concours Passerelle. J'étais assez loin aux écrits, mais je pense qu'ils étaient contents aussi d'avoir quelqu'un qui avait un parcours un peu atypique, qui avait pas le bac. Je me suis bien vendu à l'oral et puis j'ai pu intégrer l'école. Et l'école de management de Grenoble en 2011, c'est un peu l'école, voilà, de la technologie, hein. C'est l'alliance du commerce et de la technologie. Je suis arrivé là-bas, je savais que j'avais envie d'entreprendre, de faire un truc dans la technologie. J'étais content d'y aller, un peu comme un gosse, quoi, qui découvre un peu ses rêves, qui a repris l'école. Et j'ai fait la rencontre avec Emeric et Romain, qui sont deux de mes associés, avec qui je bosse depuis maintenant 10 ans, mais qui au-delà de ça sont maintenant mes amis. Et c'est là-bas où voilà notre véritable parcours entrepreneurial a pris naissance, puisqu'en fait on a commencé à l'issue des études.
Ok, très bien. Et du coup, Wizbee, donc ça a été créé en janvier 2011, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Oui, tout à fait. Donc, je vais d'abord peut-être t'expliquer ce que c'est aujourd'hui, puis ensuite après, je vais peut-être te raconter un petit bout d'histoire, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser. Donc, d'abord, dans ce que c'est aujourd'hui, écoute, nous, on crée et puis on distribue des services pour aider les jeunes. Voilà, on aide les jeunes depuis une dizaine d'années maintenant. Pour ça, on a décidé de leur offrir tous les services qui sont les plus utiles pour un moment de vie qui est très particulier, qui est l'entrée dans la vie active. Parce qu'on sait que c'est un moment qui est extrêmement difficile pour les jeunes et nous, on veut en faire une expérience un peu plus positive et enthousiasmante. Donc voilà, on a bâti de fil en aiguille en 10 ans toute une plateforme de services pour les aider à réussir. Donc ça va des services pour faciliter la recherche d'emploi chez les jeunes, un service pour faciliter le financement de la vie étudiante, pas par le biais du crédit étudiant, mais par le biais des aides, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Des services autour de la mobilité, notamment de l'apprentissage du code de la route en ligne. Des services autour de la santé, on a une mutuelle pour les jeunes, voilà, avec certaines spécificités. Voilà, l'objectif, c'est d'aider chaque jeune à réussir en leur proposant les meilleurs services pour eux à ce moment de vie critique qui est l'entrée dans la vie active. Et on distribue ces services autour de deux manières, soit sur des environnements de marque Wizbee, donc il y a Wizbee Job, Wizbee Money, Wizbee Protect, ainsi de suite, ou soit sur des marques tiers. C'est notamment comme ça, et on en viendra peut-être tout à l'heure, que c'est Wizbee qui opère aujourd'hui toutes les principales plateformes de services que les banques proposent à leurs clients avec des services qui sont un peu utiles pour eux, des services extra-bancaires. C'est Wizbee qui est l'opérateur derrière. Et c'est aussi nous qui sommes l'opérateur de la plus grosse plateforme d'emploi en France, qui est la plateforme Un Jeune, Une Solution, qui a été lancée par l'État il y a quelques semaines. Voilà, c'est Wizbee qui est derrière, et en backside quelque part, si on peut dire, et qui l'opère en proposant les meilleurs services pour les jeunes. Voilà, Wizbee, c'est ça aujourd'hui. C'est 6 millions de jeunes qui utilisent nos services. On en a à peu près 6000 nouveaux chaque jour. Et puis, c'est surtout un impact dont on est fier, hein. C'est 250 000 emplois pourvus l'année dernière. C'est presque 150 000 jeunes envoyés et redirigés vers des formations. C'est 10 millions d'euros d'aide par jour qui sont suggérés. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui nous passionnent au quotidien.
Ok. Avant de parler de tous ces services et puis effectivement de un jeune, une solution.fr, est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de Wizbee, puisque enfin c'est quand même une startup qui a de l'expérience, de l'ancienneté, on va dire, hein, puisque c'est depuis 2011. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça?
Tout à fait. Ça me rajeunit pas tout ça. Merci François. Mais en effet, c'est une aventure qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, qui a toujours gardé son ossature. Comme je te dis, on a toujours gardé ce côté. En fait, c'est une ambition et je sais pas si on parlera de ça tout à l'heure, mais pour moi, c'est un truc qui est un peu très essentiel, quoi. L'ADN, la mission, la vision, la culture sont des piliers très importants de la création et du développement de l'entreprise. Et nous, effectivement, on a eu plusieurs étapes un peu critiques dans ce développement. D'abord, la première, c'est qu'on a fait émerger la société quand on était voilà trois copains qui se sont rencontrés un peu à l'école. Si jamais, d'abord, je dois te caractériser qui est-ce qu'on est tous les trois. On est très complémentaires. Moi, je suis plutôt le chaud dans le trio. Emeric, c'est plutôt le tiède. Voilà, il est à la fois très bon manager, mais aussi pragmatique. Il a aussi un sens du relationnel qui est fort. Et puis ensuite, on a Romain, qui est plutôt le froid, mais pas du tout au sens péjoratif du terme, qui est très analytique, voilà, très bon dans des décisions et des réflexions qui en demandent un peu plus de concentration. Et on s'est rencontrés tous les trois, on avait tout un trio qui était très fort. On a fait émerger l'idée autour du l'aventure autour d'une idée phare au début qui était de faciliter l'entrepreneuriat chez les jeunes. Parce qu'en 2011, on se rend compte qu'en fait, les jeunes veulent entreprendre dans les grandes écoles, mais ils n'arrivent pas à se rencontrer dans les différentes formations. Donc, on a mis en place une plateforme pour pouvoir aider tous les jeunes à entreprendre en rencontrant d'autres jeunes qui sont dans d'autres formations. Et à l'époque, notre modèle économique, c'était les écoles qui payaient. Payer pour que leurs étudiants aient accès à cette plateforme qui était une plateforme fermée, quoi. D'ailleurs, maintenant, quand on regarde un peu en arrière, c'était tellement fermé que pour rentrer, il fallait avoir une pièce d'identité. Donc, c'était vraiment, c'était quand même assez incroyable à l'époque. Donc, on a fait un petit bout de chemin comme ça autour de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et puis, on s'est rendu compte après, assez rapidement, que en fait, si on restait sur le segment de l'entrepreneuriat, on allait mourir pour deux raisons principales. La première raison, c'est parce que l'entrepreneuriat, même si c'était un segment en éclosion, ça restait somme toute assez marginal. C'est-à-dire que le nombre de jeunes qui veulent entreprendre était encore assez restreint en 2011. Et la deuxième, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver de modèle économique sur l'entrepreneuriat qui nous permettait un peu de vivre. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on a décidé très vite, aux alentours de 2012-2013, de passer sur l'époque où tout le monde nous a qualifié de premier réseau social professionnel pour les jeunes, le LinkedIn, mais pour les étudiants. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on avait ouvert la plateforme, tous les jeunes pouvaient d'ores et déjà y accéder, on avait gardé l'entrepreneuriat comme signe distinctif, et on avait permis à tous les jeunes de trouver aussi un emploi. Donc les sociétés pouvaient déposer des offres d'emploi sur la plateforme de manière facile, voilà. Donc on ne faisait plus que l'entrepreneuriat, on faisait désormais l'emploi et l'entrepreneuriat chez les jeunes. On a passé un petit bout de chemin comme ça jusqu'en 2015 avec un modèle économique un peu axé sur les RH. Donc on proposait des services de recrutement à toutes les grandes entreprises puisqu'on avait un public qui était en train de se construire. Grandes entreprises puis PME, on leur proposait des outils pour pouvoir recruter des jeunes. C'était gratuit pour poster des offres d'emploi, puis il y avait du service premium à côté, des revenus publicitaires ou des offres d'emploi un peu sponsorisées qui faisaient une partie du modèle économique. Puis en 2016, je dirais 2015-2016, on a eu une nouvelle étape de croissance de la société qui a été, je pense, le point de départ de l'ascension qu'on a connue jusqu'alors avec une dynamique de croissance très forte, notamment sur la partie revenus. Là, on s'est décidé qu'en fait, on allait faire deux choses. D'une part, élargir l'offre et la gamme de services qu'on pouvait proposer aux jeunes parce qu'en fait, on se rendait compte de plus en plus qu'on était des fabricants. On est des fabricants de services digitaux. On avait une expertise dans les parcours, on savait parler aux jeunes et qu'on s'est rendu compte que les jeunes avaient d'autres besoins et qu'on avait une richesse et qu'on savait acquérir des jeunes, donc faire venir du public, et on savait construire des interfaces qui leur parlaient. Donc, on a pris la décision d'ouvrir et de faire une panoplie de services plus large. Et deuxièmement, de pouvoir aller trouver un modèle économique beaucoup plus aligné par rapport à notre mission. Et comme notre mission, c'était d'aider les jeunes, ben on s'est dit que c'était très simple. Il fallait que soit les jeunes payent pour les services, mais c'était pas ce qu'on recherchait majoritairement. Et s'il fallait que les services soient sinon à bas coût, à très bon rapport qualité-prix, et que ce soit des fonctionnalités un peu freemium, ou alors il fallait que de grandes compagnies, de grandes entreprises payent pour que des jeunes puissent avoir accès à ces services. Donc dit autrement, c'est soit les jeunes payent, soit d'autres payent pour eux. Et donc on a commencé à nouer des partenariats forts avec notamment l'industrie bancaire, les marchés publics, les collectivités, et voilà, et d'autres très grandes entreprises. Et voilà, et c'est plus les RH quelque part qui devenaient les services aux RH qui devenaient notre modèle économique, mais au contraire, c'était davantage les directions générales d'entreprise et les directions marketing avec qui nous pouvons nouer des accords pour pouvoir offrir aux jeunes un meilleur avenir en leur proposant les meilleurs services pour eux. Voilà, depuis lors, on est passé peut-être de 20 à 120 collaborateurs en l'espace de 4 ans, avec une dynamique de croissance de revenus qui est forte. C'est à peu près 85% de croissance annuelle moyenne depuis 2016. Et voilà, et on est content d'en être ici aujourd'hui.
Très bien. Et pour revenir du coup à tous ces services, comment est-ce qu'on fait pour lancer autant de services différents justement ?
Bien, écoute, ça...
Que ce soit une mutuelle, ouais. Ou un...
Alors d'abord, on sait aujourd'hui, nous, quels sont nos actifs, si l'on peut dire. On a trois actifs qui sont majeurs dans l'entreprise, et peut-être un quatrième dont je vais te parler, qui pour moi est le plus important, en fait. Mais on a trois actifs forts. On a un premier actif qui est centré sur notre audience. On sait faire venir des jeunes et on sait les faire venir publics sur plusieurs typologies de services différents, des moments de vie qui sont un peu différents. On sait les faire venir, par exemple, sur le permis de conduire, code de la route, à 16 ans, donc 16 ans, 17 ans. On sait les faire venir plutôt sur la recherche d'aide étudiante, donc c'est un peu plus tard, aux alentours d'une vingtaine d'années, un petit peu avant. On sait les faire venir au moment de la recherche d'emploi. Donc on sait les faire venir à plusieurs moments de vie qui sont un peu voilà, différents. La deuxième, c'est notre capacité d'ingénierie et nos services, justement. On a des services aujourd'hui qui avaient des parcours qui sont plébiscités par les jeunes, mais on sait aussi les construire, comme tu le dis. Pour savoir les construire, c'est simple, on a mis en place toute une organisation bâtie pour ça. Voilà, avec ce que l'on appelle communément dans le jargon des startups, on a des project owners, des PO, product owners, on a des personnes au marketing qui travaillent en couple aussi, on a des équipes de dev qui sont agiles, mais on a aussi surtout qui fonctionnent aussi par en matriciel, c'est-à-dire on a la hiérarchie, mais on a surtout du projet dans l'entreprise. Donc on a pour chaque projet et chaque équipe, par exemple Wisby Money, Wisby Drive, qui sont les services de code de la route, on a des équipes qui fonctionnent ensemble avec du designer, du project owner, des développeurs qui fonctionnent tous ensemble sur le même projet. Et ça va être comme ça un backlog récurrent. Ils vont toujours travailler ensemble dans l'entreprise. Et après, le troisième, c'est la capacité active. Le troisième, c'est la capacité à créer des partnerships. On sait construire des partnerships avec des très grandes entreprises pour pouvoir bâtir ensemble des services pour les jeunes. C'est nos trois actifs. Donc pour ça, on a mis en place voilà, une organisation importante dans l'entreprise, avec notamment un cœur produit conception important, parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 70 personnes chez nous qui travaillent ça, à la conception du produit. Ça demande parfois des nouveaux cerveaux, c'est très vrai. Il y a des fois où, en fait, on se retrouve avec un goulot d'étranglement et ça demande des arbitrages qui sont importants parce qu'on doit privilégier un projet plutôt qu'un autre. Mais au plus possible, dès qu'un projet a de l'ambition, on essaye de lui attribuer son équipe dédiée et il fonctionne avec son équipe et il défend quelque part son PNL son PNL qui est son compte de résultat pour pouvoir vraiment aller chercher sa croissance dans une mission centrale et globale qui est d'aider les jeunes à réussir, de faciliter leur entrée dans la vie active. Voilà comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui, si on peut dire, pour pouvoir construire ces services en parallèle.
Et récemment, vous avez lancé un jeune, une solution.fr en collaboration avec l'État. Comment ça s'est passé justement ce partenariat avec le gouvernement? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette plateforme?
Alors, d'abord, peut-être juste avant que je t'explique le pourquoi et cette plateforme. Comme je te disais tout à l'heure, effectivement, donc nous, on crée, on distribue des services pour le jeune. On le fait soit sur des environnements de marque Wisby. Donc ça, c'est les services Wisby dont je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. Donc dans les services Wisby, on a Wisby Job, qui est une plateforme de recherche d'emploi pour les jeunes, qui génère à peu près 2 millions de candidatures par an. On a Wisby Money, qui est un service qui permet de simplifier tout l'accès à toutes les aides étudiantes pour les jeunes. Donc comme ça, t'es jeune à Agen, tu cherches des aides, on te dit t'as combien t'as le droit et on peut t'accompagner dans le dépôt de dossier de manière facilitée. On a Wisby Drive, qui est voilà une alternative aux auto-écoles traditionnelles, une alternative aussi aux autres auto-écoles en ligne qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui permet de faciliter l'apprentissage du code de la route aux jeunes et de les accompagner vers le permis de conduire. Et on a Wisby Protect, qui est une mutuelle pour les jeunes, qu'on a fait éclore dans un contexte où il y avait la sécurité sociale étudiante qui, en fait, a disparu il y a maintenant 2 ans et qui était rapatriée sur le régime général. Et donc, du coup, ça rabattait un peu les cartes sur l'environnement des mutuelles. On voulait proposer aux jeunes une mutuelle un peu différente, un peu à penser pour eux. Ça, c'est la partie donc des services Wisby. Et après, on distribue aussi des services sous des marques tiers, donc ces fameuses marques blanches. Dans ces marques blanches, on a notamment cette plateforme dont tu parles qui s'appelle unjeunesolution.gouv.fr. Donc, comment est-ce que c'est né et qu'est-ce que c'est? Donc, il y a maintenant un an, très exactement, il y a l'État qui a un peu moins d'un an même, pardon. C'était en juillet de 2020, donc le ministère du Travail a lancé le plan jeune avec 6 milliards d'aides pour venir en aide aux jeunes qui étaient dans une situation extrêmement difficile après la période du Covid. Et à ce moment-là, il cherchait vraiment un dispositif très concret et opérationnel pour pouvoir accompagner ces aides qui étaient distribuées aux entreprises, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une action très concrète au cœur des territoires. Donc, ils ont lancé un appel à projet auxquelles on a répondu et on leur a proposé voilà, de mettre en œuvre une plateforme digitale qui s'appelle unjeunesolutions.gouv.fr. Du coup, unjeunesolutions.gouv.fr, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une plateforme qui permet à tous les jeunes, sans distinction de tous les horizons, de pouvoir aller trouver toutes les solutions qui sont disponibles à côté de chez eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des offres d'emploi, mais aussi de stages, d'alternance. Ça veut dire également toutes les formations, notamment toutes les formations vers les métiers d'avenir qui aujourd'hui sont super importants dans un contexte Covid qui a vraiment fait beaucoup de mal sur l'emploi chez les jeunes. On va également pour les jeunes pouvoir retrouver tout ce qui est service civique, donc c'est le volontariat pour un jeune qui veut être bénévole dans quelque chose. Voilà, l'idée c'est voilà, de pouvoir proposer à chaque jeune une solution à proximité de chez lui dans tous les territoires pour qu'il puisse réussir. Et aujourd'hui, 4 mois après le lancement, ça a été lancé le 19 novembre, donc un peu plus, presque 5 mois après le lancement, c'est plus de 2 millions de jeunes qui utilisent la plateforme. On a 230 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi, 130 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation, 70 000 vers un service civique. Donc voilà, il reste encore énormément de choses à faire, mais c'est parti franchement sur les chapeaux de roue. On est super content d'être embarqué dans cette initiative aux côtés de l'État. Et puis, je tiens à remercier, il y a 2500 entreprises qui sont mobilisées, très concentrées dans l'initiative à nos côtés.
Super. Pour revenir un peu sur toute cette aventure Wizbee, est-ce que tu pourrais me dire ce qui a été le plus compliqué à faire, à exécuter durant cette aventure?
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire, à exécuter? Tiens, tu vois, c'est marrant, c'est une question d'ailleurs qui est compliquée. Je sais pas si je pourrais te dire qu'est-ce qui a été le plus compliqué. Je peux te dire ce qui me passionne le plus. Je sais pas si ça répond à ce qui est le plus compliqué. En tout cas, ce qui est une attention peut-être de tous les jours et qui me semble être, moi, le plus important, c'est le management des hommes, en fait. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais de la culture, à quel point c'est vraiment quelque chose qui est super important. La culture, la mission, la vision. Enfin, pour moi, ceux qui font la création de valeur dans une entreprise, et c'est surtout pas du blabla, c'est les hommes. Parce qu'en fait, voilà, pour faire marcher une entreprise, toutes les idées sont bonnes en soi. En fait, le plus difficile, quelque part, c'est de l'exécuter. Et pour l'exécuter, ben, il faut avoir une équipe. Il faut avoir une équipe avec des gens qui marchent bien ensemble. Et ça, c'est une attention vraiment de tous les jours. Peut-être qu'à un autre niveau, ce qui a été peut-être le plus compliqué là-dedans, c'est que nous, on a débuté de la création d'entreprise juste après l'école. Donc, en fait, on était trois jeunes un peu fous, avec plein d'envie, plein d'ambition, mais peut-être qu'on savait pas tout faire. Donc, il nous a fallu du temps pour pouvoir apprendre un peu ça, apprendre à entraîner des hommes, parce que je pense que ça, on l'avait en nous un peu, dans notre ADN, on avait le leadership qui était assez présent. Mais à structurer, mettre en place les choses qu'il fallait pour que ça marche à la vitesse qu'il faut. Ça, voilà, ça nous a pris un petit peu de temps au début. Aujourd'hui, je disais que c'est ça qui me passionne, parce que moi-même, à titre personnel, en tant que patron, maintenant, je dirige des gens qui sont notamment voilà des ce qu'on appelle des top managers, qui ont pas mal d'expérience, qui, pour la plupart, sont plus âgés que moi, dans mon cercle proche. Et du coup, j'apprends beaucoup de ça. Voilà, j'apprends beaucoup de voilà cette complexité quelque part de gérer des gens avec un niveau de seniorité un peu plus élevé, le degré d'autonomie qu'il faut leur laisser pour qu'ils puissent s'épanouir si tu veux véritablement voir la création de valeur qu'ils t'apportent dans l'entreprise. Donc voilà, s'il y a un point central à la fois comme passion mais aussi comme complexité, c'est la gestion des hommes.
Et justement, ça me fait penser à quelque chose, ce passage d'entrepreneur à manager, comment tu l'as vécu en fait?
Comment je l'ai vécu, je sais pas. Ce que je pourrais te dire, c'est que, en fait, au début, j'étais un hyper présent, si on peut dire. C'est-à-dire que je pense que j'étais, je suis perfectionniste, très perfectionniste sur certains détails, et j'étais tellement présent que je voulais décider la couleur de tout, quoi. La couleur d'un petit bouton, un truc. Pour moi, c'était vraiment super important. Donc, j'étais en fait là. Je pense que j'étais entrepreneur. J'étais entrepreneur créateur et je pense qu'il n'y avait pas encore la place pour le manager. Tu vois, j'étais vraiment dans un petit cercle d'équipe au tout départ où vraiment, pour moi, c'était important de quelque part pouvoir travailler beaucoup et tout faire. Voilà. Et je pense que je ne savais pas vraiment exactement ce que c'était que manager. Manager, je pense que je l'ai appris au fur et à mesure du temps, voilà, avec des degrés un peu différents. Je me rappelle surtout d'une phrase d'un de mes associés, de Romain, qui m'avait dit une fois, tu vois, que quand tu voulais manager, il faut parfois accepter que ce ne soit pas à 100% comme tu veux. Et que finalement, ça va peut-être être 80% comme tu veux. Et en fait, ce 80%, ben, il va permettre que la personne va s'épanouir complètement dans ce qu'elle fait, elle va être autonome dans ses prises de décision. Et ça va lui permettre de faire des choses qui sont formidables et la boîte va avancer grâce à ça. Et en fait, je dis ça parce que c'est une phrase qui m'a toujours marqué dans ce qu'il a dit. Et après, globalement, ça a appuyé le passage à la transition du management est venu avec les hommes. Donc plus les hommes ont, plus la société a dû recruter, plus j'ai dû apprendre en fait à m'appuyer sur un cercle un peu restreint de personnes, rabattre les cartes. Donc nous on a passé différentes étapes aussi itératives là-dedans, des étapes où au début on était que les trois fondateurs ensemble et ensuite on n'avait pas de comité de direction, on avait les hommes et on se répartissait entre les trois fondateurs. Ensuite après on a eu à l'inverse, un COMEX et un CODIR. Donc, on a eu un premier niveau fondateur, ensuite un COMEX dans lequel on avait deux personnes supplémentaires. Et donc, on était à 5. Ensuite, après, on a eu un comité de direction qui était juste en dessous, où il était 10. Et après, on avait les collaborateurs. Donc là, ça faisait deux strates. Et puis, on y est revenu il y a maintenant 2 ans, 3 ans. On a fait péter le COMEX parce qu'on voulait avoir un lien direct avec le comité de direction. Les fondateurs sont mis aussi dans le comité de direction. Et en fait, voilà, on a un comité de direction fort aujourd'hui, où on est 10. Et ensuite, après, on a une équipe qui est forte, dans laquelle on est 120, et on essaye d'avoir un lien de proximité très fort entre le comité de direction et les collaborateurs. Et en termes de management, pour moi, voilà, ce qui, je pense, m'a le plus marqué, ce qui est le plus difficile aussi, parce qu'il faut trouver vraiment ton binôme, c'est la recherche de ton directeur général. Voilà, on a la recherche du directeur général et le management d'un directeur général, c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, ça se fait progressivement pour moi, mais ça se fait bien.
Ok. Pour conclure sur Wisby, aujourd'hui, Wisby, c'est en quelques chiffres. Donc, tu nous as déjà dit plus de 6 millions d'utilisateurs sur cette plateforme. Mais est-ce que tu peux nous donner d'autres chiffres, par exemple le chiffre d'affaires de Wisby, et quels sont les objectifs futurs pour Wisby?
Ouais, bah écoute, voilà, même si on ne communique pas exactement sur le chiffre d'affaires, mais Wisby globalement c'est à peu près 10 millions d'euros de revenus par an, c'est 6 millions de jeunes qui utilisent nos services, à peu près 6 000 jeunes chaque jour, c'est 120 collaborateurs super passionnés, très investis par notre aventure. Et surtout, c'est, je pense, une ambition et une mission, quoi. Et l'ambition, c'est de pouvoir vraiment aider un maximum de jeunes en Europe aujourd'hui en leur proposant les meilleurs services pour eux. Et pour ça, on va continuer à fabriquer, on va continuer à faire ce qui nous semble être le meilleur pour eux. On va continuer à distribuer, voilà, d'une part nous-mêmes, en leur proposant nos services, en marque Wisby, mais aussi en nouant d'autres accords stratégiques, des accords de distribution pour pouvoir vraiment offrir à tous les jeunes un petit peu partout au meilleur prix et en gratuité si on peut l'accès à tous les services qui leur sont utiles. Voilà ce que c'est Wisby aujourd'hui et voilà ce que j'espère ça sera demain.
Très bien, on va pouvoir passer à la nouvelle partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Ma première question, c'est quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie et est-ce que tu peux m'en citer une ou deux?
Ouais, bon, j'en ai fait plein. J'ai fait plein de rencontres fortes, des rencontres avec aussi bien des collaborateurs avec qui j'ai noué des liens, voilà, forts, quoi, et particuliers, qui étaient là notamment au début de l'aventure, qui sont encore avec nous aujourd'hui. Je pense que ça a été des rencontres des rencontres superbes, quoi, des aventures merveilleuses. Après, j'ai fait deux rencontres aussi avec ce qu'on appelle des mentors, hein, qui sont très importants, je pense, pour un entrepreneur qui veut se lancer. Parce que nous, en fait, on n'a pas, il faut le voir comme ça, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de formation véritable. Notre formation, ça peut être la lecture. En l'occurrence, moi, je ne lis pas beaucoup. Donc, si ce n'est pas la lecture, c'est les gens, hein, qui doivent nous raconter des histoires pour qu'on puisse vraiment grandir en termes de savoir quand tu es entrepreneur. Et moi, j'en ai fait deux qui ont été super importantes pour moi. D'abord, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Frédéric Serre, qui était, il y a 10 ans, au tout début de l'aventure, qui était au réseau Entreprendre en Isère, Et que quand j'ai vu, il m'a dit, ouais, ben, en fait, moi, je vais faire voler des petits hélicoptères qui vont essayer d'aller remplacer justement les hélicoptères pour pouvoir surveiller les lignes de la SNCF et améliorer l'efficience du réseau ou faire des diagnostics thermiques de bâtiments. Je me disais, qu'est-ce qu'il me dit? En fait, il parlait de drones. Et peu de temps après, voilà, ils ont pu poursuivre un peu leur aventure et avec Delta Drone, dans lequel il a fait une belle histoire. Ils ont été jusqu'à une introduction en bourse. Et après, il s'est lancé dans un autre projet. Mais c'était quelqu'un d'assez visionnaire, hein, qui m'avait dit des choses fortes comme qu'est-ce que tu as véritablement envie dans ton projet d'entreprise? Est-ce que tu as envie de bâtir aujourd'hui une PME avec quelques collaborateurs un rythme de vie qui peut être assez tranquille, même si ça dépend de ton niveau de croissance de ta PME, mais où est-ce que tu as au contraire envie de bâtir un leader mondial et de t'exploser la gueule, si l'on peut dire, et pardonne-moi pour les mots, et de travailler sur un rythme vraiment acharné pour bâtir un leader. Voilà, qu'est-ce que c'est ton sens en fait dans la vie? Donc lui m'a beaucoup fait réfléchir sur ça. C'est un mec super, c'est un mec super. Deuxième, c'est Olivier Ekman, qui est un serial entrepreneur, qui a monté une boîte qui s'appelait Multimania dans les années 2000, qui s'était aussi introduit en bourse et qui a été racheté par Lycos, et ensuite après, donc plutôt B2C, et qui après a monté une autre boîte qui s'appelait Kewego, plutôt sur des activités un peu B2B. Lui, c'est un mec aussi, pareil, auquel on s'est très très bien entendu sur la partie valeur et qui m'accompagne toujours aujourd'hui. Il m'apprend énormément, mais au-delà de ce qu'il m'apprend, c'est aussi une dimension un peu psychologique. Je pense, il est là dans les bons moments, là dans les moments où ça fait douter. Et c'est voilà, ces genres d'aventures qui font toute la richesse un peu de l'aventure entrepreneuriale. Voilà. Ça fait partie de ces rencontres qui durent. Et si je peux dire peut-être juste un dernier mot sur les rencontres, moi je pense que c'est très important hein, les rencontres parce que je crois que voilà, à la fin, on fait beaucoup de choses, le monde évolue, il se digitalise, il se transforme, tout ce qu'on veut. Mais à la fin, je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment passionnantes. La nature et les rencontres humaines sont des choses qu'on ne remplacera jamais.
Je suis bien d'accord. Et dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat?
En fait, moi, c'est toujours difficile parce que je ne suis pas de ce genre de mec qui aime bien donner des conseils. J'adore partager. Mais je ne sais jamais si c'est des conseils à proprement parler. Mais ce que je pourrais leur dire, c'est que je leur souhaite de pouvoir vivre la même chose que ce que moi j'ai vécu. Parce que, en vrai, je pense qu'il y a des expériences de vie différentes. Mais nous, on s'éclate, quoi. On s'éclate quand c'est chouette, on s'éclate aussi quand c'est dur. Voilà, il ne faut pas se mentir. C'est exigeant d'entreprendre. Tout le monde n'est peut-être pas fait pour entreprendre. C'est un peu un sport de haut niveau, quoi, d'entreprendre. Voilà, c'est des pics qui t'emmènent au sommet, des petits creux qui t'emmènent plus bas que terre. Et l'objectif, c'est pouvoir, voilà, de pouvoir durer là-dedans. Donc, mais c'est super vivant, quoi. C'est vivant, c'est passionnant. Tous les jours, on n'a pas l'impression qu'on travaille. Tu mènes ta vie. Et au final, à la fin, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être heureux dans ma vie, de faire du bien aux autres, d'avoir de l'impact. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je leur souhaite de pouvoir vivre. Voilà la même chose que ce que nous on a vécu. Et puis surtout, si je devais donner peut-être mon seul, voilà, petit conseil, je leur dirais d'économiser leur énergie. En fait, je pense que ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est notamment l'énergie des fondateurs. Elle est capitale. Donc, je pense que l'objectif, c'est d'avoir une courbe d'apprentissage le plus rapide possible en économisant le plus d'énergie. Donc, faites attention à votre énergie. Elle est importante. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir. Voilà, quand ça va, quand ça va pas, quand il faut prendre des congés, quand il faut déconnecter, c'est important. C'est l'énergie, et les rencontres, l'alliance, l'équipe qui font le succès.
Très bien, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. C'est des petites questions rapides. Tu as le choix entre me conseiller un livre ou un film. Qu'est-ce que tu me conseilles?
Un livre ou un film, c'est un film. Et comme film, je te dirais La ligne verte, parce que c'est toujours un film que j'ai adoré.
Ok. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société, ce serait laquelle?
J'adorais SpaceX.
Pour aller dans l'espace, du coup.
Ouais, parce que j'adore ce mec. Je trouve, parce qu'il a fait, ce qu'il fait, cette inspiration au quotidien est fantastique. Je pense qu'il essaye de faire des grandes choses qui font avancer l'humanité. Je le connais pas à titre personnel, donc je peux pas savoir qui il est vraiment, mais je trouve que dans les symboles auxquels il s'attaque, dans la dimension progressiste, je trouve très fort.
C'est clair, c'est clair. Mon avant-dernière question, c'est y a-t-il une question justement que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ?
Non. En fait, je me demande. Je me dis non, et je me dis en fait peut-être que si. Je me dis, en fait, c'est, je dirais oui finalement. C'est le carburant. C'est pourquoi est-ce que tu entreprends, en fait. C'est quoi ton carburant au quotidien? C'est quoi ton objectif? Pourquoi est-ce que tu entreprends? Où c'est que tu vas chercher l'énergie pour entreprendre? Pourquoi tu le fais? Je pense que c'est des vraies questions. Parfois même, je me le demande à moi-même. Je me dis, parfois, tu es un peu maso, si... quoi, tu vois, d'entreprendre.
Ah, tu n'as pas réponse à cette question, du coup.
Ah, je pense que si j'ai des prémices de réponse, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'éducation, notamment. Moi, je sais que j'ai eu entre mon rapport entre mon père et ma mère, sont deux personnes très différentes. Mon père est quelqu'un qui était cadre sup chez Total, très exigeant sur le professionnalisme et très envie pour moi que j'ai une très jolie carrière dans un salariat. Ma mère, au contraire, une femme extraordinaire. Enfin, mon père aussi est top, mais une femme qui est paraplégique, qui travaille pas, qui était à la maison, qui a toujours appris ce qui compte le plus, tu vois, c'est l'amour que tu portes autour de toi, que tu portes aux gens, l'aide que tu peux leur en avoir, et puis le travail, on s'en fout. Tu vas devenir celui que tu as envie de devenir, et en fait, il faut que tu sois heureux, et puis c'est tout. Et je pense que c'est l'alliance entre les deux qui m'a donné à la fois cette envie de me dépasser, d'être un compétiteur de dingue, et c'est ça chez mon père, et peut-être c'est le rapport au père qui joue beaucoup, je pense, dans beaucoup d'histoires, mais de faire encore mieux que ce qu'il avait pu faire. Et puis à côté de ça, la notion de ma mère, voilà, c'est ce lien si spécial avec les gens, ce plaisir d'être avec eux, cette bienveillance qui est un des traits culturels qu'on a chez nous, qui est très fort, tu vois, de faire en sorte que c'est pas juste de bienveillance bullshit, quoi, c'est que l'entreprise puisse jouer un rôle pour eux, qu'elle puisse leur apprendre voilà, à s'épanouir, qu'elle puisse les accompagner dans leur vie, qu'on puisse s'éclater tous ensemble. Voilà, c'est, et puis surtout que je puisse avoir une entreprise qui a un sens, quoi, qui fait quelque chose. Et en l'occurrence, ce quelque chose chez nous, c'est d'aider les jeunes, quoi. Donc voilà, je pense que c'est là-dedans que j'ai été chercher ça. Et pourquoi est-ce que je le fais au quotidien? Je pense que c'est vraiment parce que j'ai envie de me sentir vivant. J'ai envie de me sentir, mais grave vivant. J'adore ça. J'aime bien sentir que je... En fait, je pense que dans la vie, la seule chose que tu ne maîtrises pas, c'est la santé. Le reste, en fait, rien n'est vraiment important, quoi. Tu peux maîtriser un peu les choses, tu peux agir. Parfois, il y a des mauvaises nouvelles, parfois pas. Mais en fait, la seule qui est vraiment terrible, c'est la santé, la tienne, et puis celle de tes proches. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir le sourire, toujours aller vers l'avant. Je dis toujours aux équipes, il faut toujours aller d'échec en échec avec enthousiasme. C'est ça qui est vraiment hyper important. C'est pas ma phrase, c'était Churchill. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est un de mes moteurs à moi au quotidien. M'éclater, être positif et aller de l'avant.
Ok. Et puis cette quête de sens, elle est hyper importante aussi dans la vie de tous les jours, mais aussi dans l'entrepreneuriat, justement. Donc c'est important de le rappeler.
Exactement. Tout à fait d'accord.
Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Benjamin. C'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Ben moi, je te conseillerais bien Olivier Ekman, parce que justement, il est. Puis je te conseillerais aussi Frédéric Serre, qui est mon premier mentor. Je trouve que ces deux mecs canons, parce que justement, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'Olivier est très pragmatique. Il a beaucoup d'expérience maintenant. Il est à un moment aussi important de quête de sens, tu vois, de sa vie. Je trouve qu'il est très inspirant comme personne. Et Frédéric Serre, c'est pareil. Si tu cherches un peu un fou, un peu visionnaire, un peu voilà, à la Musk, qui bien sûr sans faire de comparatif entre les deux, leur réussite n'est pas la même, c'est pas les mêmes personnages, mais je trouve que Fred est un mec à connaître, quoi. Et dans les deux, tu retrouves un même socle de valeurs. Ouais, c'est, en tout cas, ce sur quoi est-ce que nous on s'est bâti. Humilité, humanité, positivité, détermination. Ouais, tu vas retrouver.
Super. Merci Benjamin pour cet échange très cool.
C'était un plaisir partagé. Merci pour cette invitation.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.